Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vous raconte une enquête sur un assassinat commis en décembre 2012 à Val d'Isée, en Ille-et-Vilaine, près de Rennes. L'assassinat d'Aurélie Beaugendre. Une heure après, on pense avoir arrêté le coupable. Mais il faudra beaucoup plus de temps que ça pour le confondre. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
La première scène de cette histoire est terrible, bouleversante. On est à Val d'Isée, en Ille-et-Vilaine, un matin de décembre 2012, quelques jours avant Noël, chez Aurélie Beaugendre, 29 ans, fraîchement séparée de son mari, qui vit là seule avec ses trois enfants de 4, 8 et 10 ans. Il est 8 heures passées, les gosses sont dans leur lit. Normalement, à cette heure-là, leur mère aurait dû venir les réveiller, comme elle le fait tous les matins. Mais elle ne vient pas. Alors depuis leur plumard, les gamins l'appellent.
« Maman ! Maman ! »
Et comme elle ne leur répond pas, ils finissent par descendre tout seuls au rez-de-chaussée et dans l'arrière-cuisine. Ils tombent sur elle, couchée sur le sol, la tête dans une mare de sang. Les gamins enfilent alors leurs bottes, ils enjambent le corps de leur mère et ils se précipitent chez la voisine pour la prévenir. Et la voisine baisse les yeux. Ils ont été obligés de marcher dans le sang de leur mère. Ils en ont plein les bottes. La voisine immédiatement va sur place. Elle appelle les pompiers, mais ça ne sert pas à grand-chose. Aurélie Beaugendre est morte. C'est trop tard. Les gendarmes arrivent. Les premières constatations sont assez aisées. Elle a été tuée d'une balle dans la tête. Une seule. Qui a fait un énorme trou au niveau de l'œil droit.
Et t'as vu ce qu'elle a dans la main? Une cigarette, à peine allumée. Elle a été tuée alors qu'elle venait de l'allumer. Et là, tiens, y a un briquet.
Là-dessus, la mère d'Aurélie, Marie-Christine, débarque. C'est la grand-mère des petits. C'est un cauchemar. Ses trois petits-enfants viennent de perdre leur mère à 4 jours de Noël. Et elle, d'entrée, dès le début, dès que les gendarmes lui disent « Votre fille a été assassinée », elle a sa petite idée. Et elle la leur livre telle qu'elle, brute de décoffrage.
« Ben moi, je sais qui l'a tuée. » C'est Sébastien, c'est son ex-mari. Il n'y a que lui qui a pu faire ça.
Qu'est-ce qui vous fait penser ça, madame?
Elle avait sa cigarette à la main, n'est-ce pas? Ça, c'est la preuve que celui qui l'a tuée connaissait ses habitudes. Aurélie, tous les matins, quand elle se levait, vers 6 heures, elle allait fumer sa cigarette sur le pas de la porte de son arrière-cuisine. Tous les matins, pendant que son café coulait, comme un rituel. Celui qui l'a tué savait ça. Et Sébastien, son ex, le savait bien sûr.
Oui. Enfin, Sébastien, ou un autre. Quelqu'un qui, en tout cas, connaissait ses habitudes.
Elle n'avait pas d'ennemi, Aurélie. Elle n'avait qu'un seul ennemi. Son mari, Sébastien.
Et là, vous vous dites... Histoire sans intérêt, puisqu'on connaît le meurtrier dès le début. Enfin, qu'est-ce qui lui prend, Ondelat? Il est tombé sur la tête. Il n'y a plus d'histoire intéressante à raconter. Méfiez-vous des évidences. En attendant, explorons donc la piste de l'ex. 10 ans de mariage. 12 ans de relation au total. Aurélie et Sébastien se sont rencontrés quand elle avait 17 ans et lui 24. Un coup de foudre, dans un bar. Et un premier enfant qui vient assez vite. Et dans la foulée, 2 autres.
Et à partir de quand est-ce que ça s'est dégradé, madame?
Quand il est tombé en arrêt maladie. Il avait des problèmes de dos et comme il était mécanicien, il pouvait plus travailler, quoi. Il s'est retrouvé en arrêt maladie de longue durée. Et là, il a complètement perdu les pédales. Il est devenu accro aux jeux vidéo. Il s'est mis à vivre la nuit, à dormir le jour. Il faisait plus du tout attention à elle, ni aux enfants. C'était un cauchemar, je vous jure. Rendez-vous compte, à la fin, il mangeait même plus avec sa femme et ses enfants.
Les collègues d'Aurélie racontent qu'à cette époque-là, ils l'ont vue plusieurs fois arriver en pleurs au travail. Elle bossait dans une déchetterie, jusqu'à ce qu'elle décide de quitter Sébastien. Et elle a fini par demander le divorce en juillet 2012, c'est-à-dire 6 mois avant d'être tuée. D'après ce qu'on sait, la séparation n'a pas été simple non plus. Il a voulu récupérer la garde des enfants.
Et du coup, il est entré en guerre avec elle. C'était horrible. Elle se sentait tout le temps menacée. Un jour, elle est allée chercher les gamins à l'école, il était là. Il l'a suivi jusqu'à chez elle. Et quand il est arrivé chez elle, il lui disait « Tu vas crever, tu vas crever ». Il a ramassé des pierres, ouais. Il lui a jeté des pierres dessus.
Ah ouais. Et donc la mère d'Aurélie n'a pas tort, Sébastien est à juste titre le suspect numéro un de ce meurtre. Son mobile serait de récupérer la garde des enfants. Il n'a pas trouvé meilleur moyen que de buter leur mère. Misérable. Et donc les gendarmes décident d'aller l'interpeller tout de suite, chez lui, dans les heures qui suivent la découverte du meurtre d'Aurélie. Quand ils arrivent, vers 11h, il n'est pas là. Alors ils l'attendent. Il arrive une demi-heure plus tard, plutôt serein, détendu. La première tâche des gendarmes est de lui annoncer la mort de sa femme. Ils sont en instance de divorce, mais à l'état civil, ils sont toujours mariés. Ce sera l'occasion d'observer sa réaction.
Monsieur Beaugendre, voilà, nous venons vous voir parce que il est arrivé quelque chose de grave à votre femme. Nous l'avons retrouvée morte.
Et là, il devient blême. Il s'effondre. Il doit se raccrocher à un muret pour ne pas tomber. Et juste après, il dit au gendarme, à mi-voix,
« C'est pas moi, hein ?»
Étonnant, ça. On ne lui a rien demandé. On ne l'accuse de rien. Et il dit tout de suite, « C'est pas moi. » Avant de l'emmener, les gendarmes commencent par une perquisition. Ils fouillent d'abord sa voiture. Et dans le coffre, ils tombent sur une arme. Un pistolet de calibre 9 mm et des munitions. L'arme du crime. Ensuite, les gendarmes fouillent sa maison et ils tombent sur une drôle de lettre adressée à Aurélie, mais qu'il n'a pas postée. « À présent, je te déteste, qu'on réalise sur toi ma vengeance, toi que j'ai aimé et qui m'a trahi. » Saisissant. C'est lui, donc. Entre l'arme, la lettre et les accusations de sa belle-mère, il n'y a plus beaucoup de doute.
« Monsieur Beaugendre, vous pouvez me tendre vos mains, s'il vous plaît ? Voilà, d'abord la droite. Merci. Tendez-moi la main gauche maintenant. Voilà. »
Les gendarmes font des prélèvements sur ses deux mains. Il cherche des résidus de poudre. Quelqu'un qui a tiré quelques heures plus tôt, même s'il s'est lavé les mains, a toujours des résidus sur les mains et les avant-bras et les manches de ses vêtements. Résultat, positif. Il est cuit. Il est midi et cette enquête a été bouclée en 3 heures. Mais vous qui me connaissez, hein, c'est mon truc, les enquêtes bouclées en 3 heures. Ça mérite d'être raconté, une enquête aussi facile? Patience. Pour l'instant, le monsieur est placé en garde à vue. Et s'il avoue, alors, je vous présenterai mes plus plates excuses. Sébastien Beaugendre est emmené dans les bureaux de la section de recherche de Rennes.
Monsieur Beaugendre, votre femme a été tuée par balle.
Et
on trouve justement un pistolet 9 mm dans votre voiture. Vous avez une explication? Si, oui, j'en ai une, ouais. Enfin, j'ai été victime de plusieurs tentatives de cambriolage. Le dernier remonte au week-end dernier. C'est pas la première fois, hein. Alors, ben, j'ai décidé de me procurer un pistolet, mais c'est un pistolet d'alarme, hein, de toute façon, c'est pas une vraie arme. Ça ressemble à une vraie arme, mais c'est pas une vraie arme. Je l'ai acheté ce matin, mais à Rennes, et dans une armurerie.
Ça ne va pas être difficile à vérifier.
Monsieur Beaugendre, expliquez-nous alors pourquoi on trouve des traces de poudre sur vos mains, hein, qui est le signe incontestable que vous avez tiré, avec une arme, dans les heures qui précèdent la mort de votre femme. Je vous écoute. Ce matin, je suis allé acheter mon pistolet, puis je suis allé l'essayer. Sur un parking. C'est pour ça que j'ai des traces de poudre sur les mains.
Et il dit sur quel parking? Et les gendarmes vont voir, et à l'endroit où il dit qu'il a tiré, il trouve effectivement une douille de 9 mm percutée. Et ils vont aussi voir l'armurier de Rennes, qui confirme qu'il lui a vendu le pistolet après le meurtre. Vous voyez? Je suis pas devenu neuneu. C'est une affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Et puis, une voisine vient le dédouaner à son tour.
Sébastien Beaugendre? Il n'a pas pu faire ça. C'est un super père, attentionné. Il n'aurait pas fait ça à ses gosses. Tenez, pas plus tard que dimanche dernier. Mes gamins sont allés jouer avec les siens chez lui. Il leur a fait fabriquer des madeleines au citron. Oh non, je le vois pas du tout tuer sa femme.
D'après les résultats de l'autopsie, Aurélie Beaugendre est morte entre 5h30 et 7h30 du matin.
Où étiez-vous, monsieur Beaugendre, à cette heure-là? J'étais chez moi. Quelqu'un peut en attester? Non.
Et donc, au final, la juge d'instruction fait le bilan. Il y a cette lettre. « Je te déteste, qu'on réalise sur toi ma vengeance. » Il n'a pas d'alibi non plus à l'heure du crime. Bien sûr, il y a ce pistolet d'alarme qui n'est pas l'arme du crime. Mais il a pu l'acheter à dessein, après le meurtre, pour brouiller les pistes. Et donc, à l'issue de sa garde à vue, Sébastien Beaugendre est mis en examen pour meurtre et écroué à la prison de Rennes, où il entame immédiatement une grève de la faim. Il dit qu'il est innocent. Des psychiatres l'examinent. Il détecte immédiatement chez lui un risque élevé de suicide. Il est alors interné en psychiatrie. Mais à tous, il répète.
« Je suis innocent. J'ai pas tué ma femme. »
Deux mois plus tard, un employé du tribunal de Rennes trouve une enveloppe posée sur un banc, avec écrit dessus « À remettre à la juge d'instruction qui instruit le dossier Beaugendre ». L'employé la porte tout de suite à la juge, qui l'ouvre. La lettre est signée d'une certaine Madame G. Je vous la lis. C'est moi qui ai tué Madame Beaugendre, Aurélie. Le 20 décembre 2012, je me suis présenté à son domicile. À 6h10, elle a ouvert la porte de la maison avec une cigarette à la main et j'ai tiré d'une distance d'1,50 m environ. A priori, on peut se dire, c'est un délire. Mais ce corbeau donne des détails sur le meurtre qui ne sont pas parus dans la presse. Le fait qu'Aurélie fumait une cigarette, par exemple, quand elle a été tuée, ça n'est pas public. Et puis l'horaire, ça colle avec les constatations du légiste. Et puis la distance de tir, 1,50 m, ça colle aussi. C'est très troublant, très troublant. Et c'est encore plus troublant quand les gendarmes interrogent le fils aîné d'Aurélie, 10 ans.
Moi, ce matin-là, quand j'étais encore dans mon lit, j'ai entendu une femme crier en bas. Crier, tu vas crever.
Il était quelle heure?
Je me souviens, j'ai regardé mon réveil, il était 6h. Et après, j'ai entendu ma maman crier. Mais j'ai pas osé aller voir. Et après, je me suis rendormi.
«
gendarmes.
Les gendarmes se mettent alors, avec précaution, sur la piste d'une femme meurtrière. Ils cherchent une femme qui avait des comptes à régler avec Aurélie. Et ils commencent par interroger sa mère, Marie-Christine, toujours très bavarde.
Je sais pas trop quoi vous dire, mais je sais que depuis sa séparation avec Sébastien, Aurélie avait rencontré un autre homme, enfin, un collègue de travail, je crois. Je crois qu'il est venu dîner chez elle un soir. Elle m'a dit qu'elle l'avait trouvé très gentil.
Autrement dit, on découvre qu'Aurélie avait un amant. Ce que confirme d'ailleurs l'examen de son téléphone portable, il s'appelait beaucoup et s'envoyait des SMS du genre « C'est juste pour te dire que je t'aime et que tu me manques, bisous ». Or cet amant est marié. Est-ce que ça n'est pas sa femme, la meurtrière, la vengeance d'une femme bafouée? Cette femme est convoquée à la gendarmerie.
Est-ce que vous connaissiez Aurélie Beaugendre, madame?
Ben non, je la connaissais pas. Mais mon mari m'a dit qu'il avait une collègue qui était décédée. J'ai appris son existence le jour de son décès, quoi.
Est-ce que vous pensez que votre mari a pu avoir avec elle une relation extra-conjugale?
Vous savez, il en a déjà eu. Il m'a trompé quand j'étais enceinte de ma fille. Mais là, non. Enfin, je pense pas qu'il ait pu me tromper une autre fois.
On vérifie la localisation de son téléphone portable le matin du crime. Cette dame était chez elle. A priori donc, elle n'est pas Madame G. Mais cette Madame G existe-t-elle vraiment? Elle se manifeste à nouveau, en tout cas. 2 mois après sa première lettre, elle adresse un nouveau courrier, mais cette fois pas à la juge, mais à la mère d'Aurélie. « C'est moi qui ai tué Aurélie. Je vous écris car le jeudi, habituellement, les enfants auraient dû être chez leur père. Depuis, je ne cesse de faire des cauchemars. Je vous écris en espérant que cela soulagera ma conscience. Madame G. » Les gendarmes de la section de recherche de Rennes envoient les 2 enveloppes au labo, prière de chercher des traces ADN.
Section de recherche, j'écoute.
On a identifié un ADN dans l'une des enveloppes.
Ah, d'accord. Vous avez une identité?
Oui. Oui, on a passé l'ADN au fichier. C'est Sébastien Beaugendre.
C'est donc lui qui, depuis le fond de sa prison, a envoyé ces 2 lettres pour se dédouaner. Et c'est confirmé par une expertise en écriture, c'est bien lui. Il est donc entendu à nouveau.
Je vous assure que je suis pas l'auteur de ces lettres. Enfin, monsieur, on retrouve votre ADN dessus, sur l'enveloppe. Et c'est votre écriture.
Ouais, mais je fais pas les mêmes fautes d'orthographe, moi. Hein.
Le coco a l'air d'être un sacré manipulateur. Et c'est pas fini. 7 mois plus tard, il écrit à sa gentille voisine, vous savez, celle qui avait dit dans son témoignage que c'était un père remarquable, les madeleines au citron, vous vous souvenez? La voisine est tellement choquée par cette lettre qu'elle la transmet immédiatement aux gendarmes. « Peux-tu me fournir un alibi pour le jeudi 20 décembre? Dire que ce matin-là, tu étais avec moi de 5h30 à 6h30 et qu'on avait une relation cachée. »
La voisine est choquée parce qu'elle est mariée. Hein, elle ne peut pas faire croire qu'elle entretenait une relation avec lui. D'autant que dans cette lettre, pour crédibiliser son témoignage, il lui propose de donner des détails croustillants. Genre, on faisait l'amour dans le salon tout habillé, en lui demandant de les apprendre par cœur et de détruire le courrier. Mais maintenant qu'elle a donné cette lettre au gendarme, il est cuit. Il est vraiment cuit. Ce type est complètement dingue. Et c'est un sacré pervers. La juge d'instruction ordonne alors une nouvelle perquisition à son domicile. Et dans le garage, les gendarmes tombent sur un petit atelier de bricolage qui leur avait échappé la première fois. Sur l'établi, il y a tout pour transformer des balles de pistolet d'alarme en balles qui tuent.
tout pour vider une balle d'alarme de son contenu, c'est-à-dire de sa poudre, et la remplir avec des billes de roulement à billes en acier. Bref, tout pour faire une vraie balle de 9 mm avec une fausse balle. Il a fabriqué lui-même l'arme du crime. Et oui, les mécaniciens, n'oubliez pas. Et d'ailleurs, en fouillant sur son ordinateur, les gendarmes s'aperçoivent que le Zozo est allé sur tout un tas de sites qui expliquent comment fabriquer une arme à feu artisanale. Quand je pense que j'ai cru qu'il était innocent. Ainsi donc, armé de son pistolet fait maison, Sébastien Beaugendre serait parti de chez lui le 20 décembre à 5h30 du matin. Il connaissait les habitudes de sa femme. Il l'a attendue à la porte de l'arrière-cuisine. Et quand à 6h du matin, elle est sortie fumer sa clope, et il a visé l'œil, parce que sans doute savait-il que sa balle artisanale n'était pas aussi efficace, aussi puissante qu'une balle classique. Il n'était pas certain qu'elle traverse le crâne, alors il a visé l'œil à bout portant. Et ensuite, il est sans doute allé planquer son arme et en acheter une autre dans cette armurerie de Rennes. Et avec, il est allé tirer sur ce parking pour justifier la présence de poudre sur ses mains. C'est bien pensé. Ça aurait pu marcher. Mais ça n'a pas marché. Sébastien Beaugendre est donc renvoyé devant la cour d'assises de Rennes pour assassinat. C'est-à-dire meurtre avec préméditation. Il encourt donc la réclusion criminelle à perpétuité. Mais il continue de nier, absolument, totalement. Le procès s'ouvre le 21 novembre 2016. Mais le box est vide. Sébastien Beaugendre est absent. Il refuse de comparaître, et ça n'est pas la première fois, il y a déjà eu une tentative de le juger quelques semaines plus tôt, il a fait une tentative de suicide, le procès a été ajourné. Cette fois, il a dit à son avocat, « Je veux pas que mes enfants me voient menotter dans le box. De toute façon, je suis innocent. » C'est assez rare comme situation. Et ça n'est pas un cadeau pour ses avocats, ils vont devoir le défendre en son absence. Le fils aîné de Sébastien et Aurélie Beaugendre, qui avait 10 ans au moment du meurtre, est appelé à la barre. C'est lui, je vous rappelle, qui avait dit au tout début que vers 6h du matin, il avait entendu une femme crier « Tu vas crever !» C'est une femme que vous avez entendue, jeune homme, ou c'est un homme ?
Bah, je sais plus. Je sais plus bien.
C'était la pièce maîtresse de la défense. Elle s'effondre. Et tous les autres témoignages jouent contre l'accusé absent. On apprend beaucoup de choses sur Sébastien Beaugendre à ce procès. Il a perdu son père à l'âge de 13 ans. Ça n'a pas été facile. Et ce que raconte son entourage, c'est qu'à partir de la mort de son père, il est devenu un tyran. Il s'est mis à jouer le rôle du père absent. Il a voulu dominer la fratrie et sa mère. Il s'est mis à agir en despote. Et dès qu'il a rencontré Aurélie, il a surinvesti la relation. Il voulait tout contrôler. C'est un portrait qui ne le sert pas, d'autant qu'il n'est pas là pour répondre. Et quand Aurélie demande le divorce, il devient incontrôlable, fou.
Ah ben un jour, je l'ai vu débarquer avec une tronçonneuse dans la cuisine. Bah, il voulait tronçonner les meubles, hein.
D'autres témoins racontent qu'il s'est mis à poser des puces dans la voiture d'Aurélie pour surveiller ses allées-venues. Et aussi à pratiquer des incantations de magie et de sorcellerie dans l'espoir qu'elle revienne. Et le déclic, c'est quand il a découvert qu'elle fréquentait un autre homme. Un soir, Aurélie l'aurait trouvé en train de bricoler sous le capot de sa voiture. Elle a découvert le lendemain qu'il avait dévissé 4 boulons du moteur. Après 5 jours d'audience, le verdict tombe. Sébastien Beaugendre est reconnu coupable. Il est condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il fait appel. Il est donc rejugé devant la cour d'assises de Saint-Brieuc en juin 2018. Et cette fois, il est là, dans le box. Et il maintient jusqu'au bout qu'il est innocent. Et il écope à nouveau de 25 ans de réclusion criminelle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.